Bonjour et bienvenue, nous sommes Alan Blanchet
et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous recevoir sur le podcast de la Braze Marketing Academy, le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne.
Une initiative de Produits en Bretagne.
Propulsée en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère.
À chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine.
Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés ?
Ceci est l'épisode 6. Nous allons aujourd'hui parler de marketing territorial. En somme, comment des particularités culturelles peuvent créer une différenciation pour une entreprise, une marque ou un produit, en faisant dans cet épisode un focus sur l'utilisation de la langue à cette fin. Alors, épisode un petit peu exceptionnel, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour parler de ce sujet Malo Poissel-Dubourg, qui est le directeur de Produits en Bretagne. Alors, exceptionnellement pour cet épisode, on va basculer sur le tutoiement. Alors, bonjour Malo.
Bonjour Alan.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de resituer le lien entre culture et économie, et comment la culture vient enrichir un territoire. Alors, on parle souvent de l'effet Guggenheim. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ?
Oui. L'effet Guggenheim, c'est effectivement très souvent cité. Guggenheim, c'est un musée d'art moderne qui a été créé dans la ville de Bilbao en 97. Bilbao, à l'époque, c'est une ville qui n'est pas connue à l'international, c'est une ville industrielle, un peu vieillissante. Et ce musée va permettre de mettre la ville dans un univers de notoriété très grande à l'international. D'une part, elle est vraiment inscrite maintenant dans le monde. Ce musée attire 1 million de visiteurs par an. Il a permis de créer entre 5 000 et 9 000 emplois directs et indirects. Et les retombées économiques sur les 10 premières années de son fonctionnement avaient été chiffrées à 1,6 milliard. Donc, ce musée est cité souvent en exemple comme étant la démonstration que la culture est une force d'entraînement notoire sur l'économie. Alors, en Bretagne, on n'a pas vraiment l'équivalent, hein, soyons honnêtes, mais on a des choses qui sont très intéressantes et qui, par certains côtés, y ressemblent. Je voudrais parler de la Vallée des Saints. La Vallée des Saints, c'est un projet fou, en réalité. Ça se passe à Carnoët, en centre-Bretagne, sur une ancienne butte médiévale. Et le projet, c'est de créer un univers de 1000 statues en granit, des statues monumentales qui représentent les saints du fond légendaire breton. Autrefois, dans les veillées à la campagne, on lisait une page sur une vie de saint tous les soirs. Et c'est quelque chose qui est resté très ancré dans l'imaginaire populaire. Et ce projet, il a la particularité d'être financé entièrement par des dons. Aujourd'hui, on en est à 170 statues et quelques, qui ont été financées par plus de 4700 particuliers et par presque 400 entreprises. Ce qui démontre un autre aspect de la culture qui est très intéressant, c'est que la culture fédère. Elle a la capacité à générer de l'enthousiasme, à générer de la générosité, de la fierté et à fédérer autour de projets.
Mais alors concrètement, comment est-ce que culture et économie sont imbriquées ?
On peut, en simplifiant un peu le problème, dire qu'il y a deux grandes forces qui sont associées à la culture. La première, c'est une force d'appartenance. C'est le périmètre du « nous ». On dit « nous », nous les Bretons, nous les Français, nous les Irlandais, nous les Européens, parce que ça fonctionne un peu comme des poupées russes aussi. Hein. Et à l'intérieur de ce périmètre-là, les gens partagent des valeurs, les gens partagent une culture et du coup se comprennent plus facilement. Ont une sensibilité qui se rapproche, se comprenant plus facilement, ils vont se faire confiance plus facilement. Et la confiance, c'est un accélérateur économique extraordinaire. Et puis, ils vont avoir une capacité à mieux travailler ensemble, plus simplement. Donc ça, c'est un premier aspect qui relève de la cohésion sociale, mais qui est une vraie force. Le deuxième aspect, c'est la capacité de la culture à créer de la différenciation. Vous donnez 20 ingrédients, les mêmes, à un Mexicain, un Breton, un Français, un Chinois, vous allez avoir des repas complètement différents. Pourquoi ? Parce que le filtre, l'inscription culturelle va faire qu'il va y avoir une traduction de cette réalité pourtant au départ commune et qui va produire quelque chose de complètement différent. La culture produit de la différence. Or, qu'est-ce qui nous attire dans la vie ? C'est des choses qu'on n'a pas déjà, qu'on ne connaît pas déjà. C'est la différence. La culture va être la base de différenciation et donc d'échange. Différenciation égale échange. Échange égale commerce, commerce égale économie, CQFD. En fait, c'est une deuxième grande force, la création de différenciation qui va être la base de l'échange. Donc cohésion sociale d'un côté, échanges commerciaux de l'autre, on a deux forces qui sont d'origine très culturelle et qui vont être des leviers économiques.
Alors si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail sur la langue et l'utilisation de la langue, quel intérêt on a ou on aurait à capitaliser sur une langue différente dans son marketing, dans son positionnement ?
La langue, c'est vraiment le marqueur culturel le plus fort d'un territoire, d'une identité. C'est vraiment un cachet d'authentification et une marque peut utiliser une langue pour s'associer des traits qui sont liés à cette culture, des traits positifs qui sont liés à cette culture. Et on voit des pays étrangers, des marques étrangères qui utilisent la langue de leur pays d'origine quand ils viennent communiquer en France, justement pour activer ces leviers. Quelques exemples peut-être, il y a la fameuse, on la voit souvent dans des slogans, hein, la Deutsche Qualität, qui est utilisée par des véhicules allemands, parce que la langue allemande c'est l'Allemagne c'est la qualité industrielle, etc. On va voir des Américains aussi avec le What Else de Nespresso ou le Just Do It de Nike. On va voir, si vous allez dans une pizzeria dell'Arte, par exemple, ben sur le menu, tu pourras constater qu'il y a beaucoup d'Italiens. Et là, ça rejoint l'adage qui veut que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Ceux qui font ça très bien aussi en France, c'est IKEA. IKEA, quand on entre dans un magasin IKEA, non seulement la langue, le suédois, est très fortement mis en avant, parfois sur les panneaux promotionnels, il est mis en beaucoup plus gros que le français. Mais au-delà même de la langue, si on veut prendre un déjeuner dans un magasin IKEA, on peut le faire et tu vas avoir la proposition de plats de spécialité suédoise. Et puis tout l'univers du magasin, je veux dire, il y a le bois, il y a l'esprit design, la pureté, la simplicité, le mode de vie suédois. On est vraiment dans un petit coin de Suède. Et ça montre la force de l'identité comme levier pour créer de la différenciation positive à partir du marqueur linguistique qu'est une langue. Alors, la langue bretonne peut, elle aussi, être utilisée pour les mêmes raisons, hein, comme levier de création de valeur. Il faut peut-être surmonter quelques obstacles. Et c'est intéressant de le noter. Je pense que le premier de ces obstacles, c'est le sentiment d'illégitimité du patron de l'entreprise, bien souvent, ou de la personne de l'entreprise responsable du marketing et de la communication qui porte le dossier de communication et de marketing, qui se sent illégitime parce que le plus souvent, elle n'a pas de compétences linguistiques en breton. Et elle se dit, ouais, mais moi, je ne suis pas vraiment légitime, je ne parle pas breton, je ne connais pas le breton. Bon. Alors, je comprends ce sentiment, mais je pense qu'il faut le dépasser parce que la question de la légitimité, elle ne se pose pas au niveau du porteur de projet, elle se pose sur la langue bretonne elle-même. Est-ce que cette langue est légitime par rapport à ma clientèle, par rapport à mes salariés, par rapport à mes fournisseurs? Or, la réponse, elle est oui. Les sondages faits pour la région par TMO montrent que 89% de la population bretonne souhaite que la langue bretonne reste bien vivante, ait un avenir, soit vécue en Bretagne. Donc, on n'est pas sur un terrain miné. Au contraire, je dirais qu'on est accompagné, précédé par un capital sympathie. Et c'est vrai en Bretagne, mais on pourrait se dire, oui, mais alors si je quitte la Bretagne, il ne faut pas que je mette du breton sur ma main. Non, c'est vrai aussi en dehors de la Bretagne. Là, le chiffre est un peu moindre, mais on est à 75% de la population française qui souhaite voir se développer et fleurir les langues régionales parmi lesquelles la langue bretonne. Donc, il n'y a pas d'obstacle de légitimité de la part de la clientèle dans un sens très large. Au contraire, je dirais qu'on est dans un climat de bienveillance, voire même d'attente vis-à-vis d'une langue comme la langue bretonne, sur un emballage ou dans une communication.
On a d'ailleurs des exemples d'entreprises bretonnes qui capitalisent sur la langue bretonne, justement, alors qu'elles ont un positionnement très clairement orienté sur l'international.
Oui, alors effectivement, je pense à Ascorn Medical, par exemple, hein, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les prothèses chirurgicales, qui vend 75% à l'export et qui utilise de façon permanente dans sa communication trois langues, le français, l'anglais et le breton. Et ce qui est intéressant, c'est que la langue bretonne souvent intrigue chez les clients, hein, partout dans le monde, suscite des questions. Et au travers de ces questions, se crée un lien de sympathie avec Ascorn Medical, parce qu'en fait, la démarche d'Ascorn Medical est très bien perçue, et surtout créer de l'inoubliable dans la rencontre. Et la mémorisation, c'est quelque chose de fondamental dans la relation commerciale, ne pas être oublié par ses clients, par ses fournisseurs. Donc on voit là que dans un contexte très international, ça fonctionne très bien.
Tu parlais d'emballage rapidement tout à l'heure. Si on rentre justement dans quelque chose de plus concret, comment est-ce que le breton et pourquoi le breton peut-il être utilisé dans un emballage?
Alors, on peut se reporter là à l'analyse fonctionnelle des emballages, hein, très classiquement. Donc, on connaît les fonctions techniques. Hein, l'emballage, il faut qu'il préserve, protège le produit, le conserve, etc. Il y a des fonctions service, la praticité. Et puis, il y a les fameuses fonctions marketing, parmi lesquelles, la première, c'est la fonction appel. Alors, c'est intéressant parce que, stricto sensu, le produit doit faire signe dans le rayon. C'est-à-dire qu'il doit appeler le consommateur, le happer d'une certaine manière, capter son attention. Et ce n'est pas facile, parce que les produits, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et la langue bretonne peut dans certains cas, être utilisé dans cette fonction appel. Exemple, Braise Cola. Quand on voit en très gros Braise Cola sur une bouteille de cola, en lieu et place d'une marque bien connue, incontestablement, la langue bretonne a créé un appel. Il y a aussi la fonction positionnement, une fonction fondamentale. C'est la fonction qui fait que un produit dans sa famille doit trouver une place unique. C'est son positionnement dans sa famille. Alors, la langue bretonne peut être utilisée ici pour territorialiser le produit, pour dire qu'il vient de quelque part. Et on sait aujourd'hui l'extrême appétence des gens pour les produits régionaux. 70% des Français disent que c'est quelque chose de très important ou d'extrêmement important dans leurs critères de choix. Donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi des aspects de qualité et d'authenticité. Et la qualité, c'est intéressant parce qu'il y a une étude galloise qui a été faite et qui a montré que quand on a un emballage gallois et anglais, bilingue, eh bien, les consommateurs ont l'image, ont l'a priori d'un produit de plus grande qualité. Donc voilà un exemple de capitalisation sur du positionnement par l'utilisation d'une langue comme le breton ou comme le gallois. Il y a d'autres fonctions encore, il y a des fonctions un peu relationnelles, c'est-à-dire créer de la connivence, créer de la fidélisation. Quand on sait qu'il y a 89% des gens qui sont favorables à la langue bretonne, ben cette connivence n'est pas très difficile à établir en réalité. Et puis on peut même aller un petit cran plus loin et jouer avec la fonction ludique. Jouer avec la langue bretonne sur les emballages. Il y a des exemples amusants comme les gaufrettes, où carrément il y a des petites phrases en breton qui sont inscrites, je dirais, dans la pâte du biscuit. Mais d'une façon plus générale, si vous avez un peu de surface sur votre emballage, tu prends un pack d'eau, tu prends un pack de céréales, enfin, où il y a vraiment de l'espace, bah, on peut imaginer des petits jeux pour les adultes, pour les enfants, avec la langue bretonne, et au travers de ça, satisfaire une des fonctions marketing de l'emballage.
Est-ce que tu aurais un petit conseil pratique, justement, sur le sujet de l'emballage ?
Pour l'emballage, je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, il en faut suffisamment de la langue bretonne. C'est-à-dire il faut qu'on puisse lire une véritable intention vis-à-vis du bilinguisme. S'il y a juste un mot qui est traduit, on risque d'être perçu comme ayant voulu gadgetiser la langue bretonne. Donc, il en faut quand même un peu une dose. En tout cas, la lisibilité de l'intention est importante. Par exemple, il faut au moins la dénomination et puis la liste des ingrédients qui soient dans plusieurs langues. Et à propos de la liste des ingrédients, un petit conseil pratico-pratique. Ben souvent, on trouve de l'anglais, du hollandais, plusieurs langues. Mais si vous mettez le breton parmi ces langues, ben ce n'est pas évident qu'un consommateur qui ne connaît pas le breton repère que c'est la langue bretonne. Donc, un petit conseil pratique, vous mettez le drapeau de chaque pays en face de la langue. Pour le breton, ça va être le Gwenadu, qui est très connu partout dans le monde. Et le décryptage est immédiat.
Alors, au-delà des emballages, une langue différente peut aussi être utilisée dans la communication. Si on prend l'exemple notamment de produits en Bretagne.
C'est vrai que Produits en Bretagne a souvent fait des expériences heureuses avec la langue bretonne et souvent aussi en dehors de la Bretagne. Je me souviens de ces campagnes dans le métro avec un grand slogan en breton, « Plijadur pendaben »,« Rien que du plaisir » ou bien encore « Braise da Danva », »,« La Bretagne à déguster ». Eh bien, à l'époque, il y avait eu des débats au sein de Produits en Bretagne pour savoir s'il fallait le faire ou ne pas le faire. Et puis finalement, le conseil d'administration avait choisi de le faire. Et il y a eu des retours très positifs et aucun retour négatif. Ça, c'est l'exemple peut-être le plus ancien à Paris, mais on a un exemple beaucoup plus récent où on a fait une caméra cachée à Paris en utilisant la langue bretonne. C'était assez amusant parce que c'était un acteur qui allait à la rencontre de Quidam dans la rue et s'adressait à eux en langue bretonne. Bon, alors clairement, au départ, la personne se demande ce qui lui arrive, si elle va se faire agresser ou quoi, elle n'est pas à l'aise, on le sent sur son visage, c'est très drôle. Et puis après, on passe à la dégustation des produits, parce que l'idée, c'est de faire découvrir des produits bretons. Alors là, les visages commencent à s'ouvrir et à s'éclairer. Et puis on continue en demandant aux personnes de dire « miam miam » en breton. Et ça se dit « menam menam », donc a priori, tout le monde est capable de le faire. Et là, ils commencent à rire et à s'amuser, et c'est gagné. Alors l'objectif pour nous, c'était pas juste de faire un petit tour à Paris et de s'amuser avec les consommateurs, mais c'était de faire du buzz sur Internet. Donc ce petit film, on l'a posté sur Internet et il se trouve que dans l'histoire de Produits en Bretagne, à aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ce petit film qui a obtenu pour nous les meilleurs scores. On est à plusieurs centaines de milliers de vues. Donc on peut bien sûr utiliser dans des contextes très très variés la langue bretonne en communication. Je dirais même que finalement ces exemples-là illustrent que quand on a affaire à une langue en situation de minorité, ça peut donner des occasions de créativité pour une agence de com. Il faut jouer avec ça, parce que ça peut être des occasions de découverte, de dissonance, d'apprentissage, de connivence, on fait participer les consommateurs. Et là, c'est très intéressant pour une marque. Mais là, c'est à vous, marketeur, et c'est à votre agence aussi d'y aller avec un peu d'audace et un peu de créativité. Mais c'est un terrain de jeu extraordinaire.
Ah, on parlait du médical tout à l'heure, mais c'est vrai que la langue bretonne s'invite aussi dans d'autres territoires plus inattendus, notamment le digital. On a quelques exemples comme ça.
Aujourd'hui, la langue bretonne est présente sur tous les secteurs. Il y a une web télé, il y a des écrivains de science-fiction, etc. Mais dans le digital, un domaine très très contemporain, on a par exemple l'application Tribal. Tu connais cette application-là? C'est une application qui fait un peu le même usage que WhatsApp, avec une dimension écologique marquée, et qui propose, parmi toutes les langues du menu, qui propose la langue bretonne. Il y a d'autres exemples. Il y a la visite de 70.8, par exemple, qui est une antenne de Océanopolis, où parmi les langues proposées en audio guide, il y a le breton. Donc en fait, oui, dans un contexte très contemporain, la langue bretonne est finalement très à l'aise.
Alors pour finir, à ceux qui souhaiteraient se lancer ou qui hésitent encore à le faire, est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques?
Oui. je vais vous donner 3 conseils. Le premier, il est important, c'est qu'il ne faut pas ajouter la couche langue bretonne a posteriori. Il faut que la volonté d'inscrire du bilinguisme dans votre démarche de communication ou sur votre packaging, elle soit décrite et dès le brief, dès l'amont. Si vous commencez à tout faire et qu'à la fin vous dites « tiens, si on mettait un peu de breton, c'est trop tard et ça va être très compliqué, ça va être moche ». Donc c'est dès l'amont qu'il faut prendre les choses en main. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que la langue bretonne, il va falloir aussi l'expliquer, je pense, dans l'entreprise, c'est-à-dire l'inscrire dans un projet RSE de l'entreprise. C'est pas juste un gadget, ça a du sens et il faut que ce sens soit partagé par l'ensemble de l'entreprise. Je crois que c'est quelque chose d'important aussi. Et puis, le troisième conseil, c'est tout simplement de vous faire aider. Parce que vous n'êtes justement pas forcément compétent dans la langue bretonne. Et pour se faire aider, il y a 2 moyens très simples. Il y a d'abord avoir recours à l'Office public de la langue bretonne, qui est un service de traduction. Donc c'est le métier, il est là pour ça. Il dispose aussi d'une base de données sur les termes scientifiques, les termes commerciaux, les termes techniques, de 80 000 termes. Donc ils sont bien outillés pour vous aider. Et puis je dirais aussi, allez consulter sur le site de Produits en Bretagne le projet langue bretonne qui a été élaboré par la commission langue bretonne. C'est un petit livret jaune qui est bourré de propositions. Et c'est quelque chose qui a été conçu de façon pratico-pratique parce que, quelle que soit la proposition, de la plus simple à la plus complexe, à chaque fois, on vous indique à qui vous pouvez vous adresser et les coordonnées pour entrer en contact avec la personne qui peut vous aider. Donc maintenant, je dirais à vous de jouer. Berdei, comme on dit en breton. Kenao echal.
Kenavo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site www.produitsenbretagne.bzh.
À bientôt.